Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Aujourd'hui, ce sont des lecteurs et de très bons lecteurs que j'ai conviés à venir partager cette soirée avec vous, une partie de la soirée en tout cas. Des lecteurs qui sont donc autour de cette table. À ma gauche, Martine Imhoff. Bonjour Martine.
Bonjour.
Ensuite, Daniel Marc. Philippe Nara, Philippe Gibert, bonjour à vous et merci d'être là pour discuter d'un auteur qui est important dans la littérature française et qui n'est pas très bien connu de beaucoup de personnes. Alors je dois vous avouer que j'en ai parlé autour de moi. Certains m'ont dit « Oh, il m'est tombé des mains, ses livres me sont tombés des mains », d'autres sont passionnés, mais on va pouvoir en parler puisque vous avez choisi un livre intitulé « Voyage de noces ». D'ailleurs, déjà, le titre est assez étonnant, on en parlera. Donc, si nous parlons de Modiano, moi, je peux faire une brève bio, si vous voulez. Il est né en 1945. Il dit « Je suis né d'un juif et d'une flamande qui s'étaient connus à Paris sous l'occupation. Et le père comme la mère ont eu des relations et des activités assez sulfureuses avec des personnages plutôt compromettants. » Vous voyez en 1945 ce que cela voulait dire. Bon, alors, les parents ont divorcé, le père est parti, abandon total du père. Et quant à la mère, elle n'était pas tellement là parce qu'à sa décharge, il faut dire qu'elle était actrice et elle avait de nombreuses tournées. Ce n'était pas une actrice très connue, mais elle jouait, il fallait bien vivre, et elle jouait dans différents lieux. Ce qui a donc déjà cette idée d'abandon, mais il perd également son jeune frère auquel il était très attaché. Et puis, il a été trimballé de nourrice en pension, souvent pour de courtes périodes. Il a fait de nombreuses fugues, et voilà, retenons cela, entre autres. Il y a eu des révoltes, des larcins même. Voilà, et quand on voit Modiano, quand vous le voyez par exemple à la télévision, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer. Pas voyou, non, mais quand même, ayant des côtés un petit peu limites. Et par chance, il a été aidé, pris en charge en partie, du moins, par l'écrivain Raymond Queneau. Raymond Queneau qui avait ses entrées chez Gallimard et qui va s'en occuper dès l'âge de 16 ans. Il faut dire que il était... Patrick Modiano était nul en maths, là je partage un peu son handicap. Et donc Raymond Queneau, vous le savez, qui était un des partisans de l'Oulipo, et un des créateurs d'ailleurs de cette école oulipienne, s'est occupé de lui pour les maths entre autres, mais très vite je pense qu'il a dû comprendre qu'il avait des dons. Alors, auteur d'une trentaine de romans, il a reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix de l'Académie française, le Prix Goncourt. Et le 9 octobre 2014, son œuvre est couronnée par le Prix Nobel de littérature, je cite, « pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation ». Voilà, c'est l'Académie suédoise qui disait ça. Et on le présente d'ailleurs comme le Marcel Proust de son temps. Son œuvre est traduite en 36 langues. Voilà, pour présenter brièvement, parce qu'on pourrait en raconter, oui. On découvre quand même une histoire, une jeunesse assez incroyable, et ceci expliquant cela, parce que si vous l'entendez, on l'entend peu en fait, ni à la radio ni à la télévision, ce n'est pas un bavard, il n'est pas très loquace, et on comprend quand même qu'il y a des failles dans sa jeunesse. Voilà, alors ce livre, Voyage de noces, merci à Daniel Marc de nous l'avoir recommandé. Alors je dis pour nos auditeurs que c'est un livre qui a un avantage, c'est qu'il n'est pas très épais. Ouais. Voilà, il est court, mais dense, on peut dire dense. Alors, Martine Imhoff, est-ce que vous accepteriez de nous faire un résumé de ce livre? D'ailleurs, pourquoi a-t-il écrit ce livre?
Alors, d'abord le résumé, si tant est qu'on puisse résumer Modiano. Voyage de noces présente donc un personnage Jean B, on n'a que l'initiale, un homme de 40 ans, voyage à Milan pendant le mois d'août où il apprend qu'une Française a mis fin à ses jours dans un hôtel milanais. En s'intéressant de plus près à ce tragique destin, il découvre qu'il connaissait la femme en question. Il s'égare alors dans les souvenirs du passé, il rentre à Paris. Donc c'est 20 ans après cette rencontre qu'il avait faite, il organise sa propre disparition et décide de laisser ses proches pour repartir sur les traces de cette personne Ingrid Tersen, comme il l'appelle, et de son mari, de cette personne, Rigaud. La biographie d'Ingrid qu'il avait entreprise le ramène dans le passé, lorsque ce couple, Ingrid et Rigaud, fuyait la guerre au début de la guerre 42 et s'était réfugié dans un hôtel de la Côte d'Azur à Juan-les-Pins, donc où il les avait rencontrés. Lui, il avait 20 ans. Voilà. En gros, c'est un résumé.
Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dire en amont pourquoi il a écrit ce livre ? Il avait lu quelque chose dans Paris Soir.
Donc, c'est en fait un entrefilet qu'il avait trouvé sur la disparition, la fugue d'une jeune juive qui s'appelait Dora Bruder. Et ses parents, son père, avaient fait paraître un avis de recherche qui a d'ailleurs eu des conséquences désastreuses, puisque non seulement cette Dora Bruder, il le découvrira par la suite, parce qu'il a juste lu l'entrefilet et ça l'a travaillé. Il a eu envie d'écrire sur Dora Bruder et il mettra 6 ans. Donc il a commencé par écrire « Voyage de noces » en inventant un personnage, Ingrid, à partir de cet entrefilet sur Dora Bruder qui avait disparu au moment de l'occupation allemande. Et ce n'est que 6 ans après avoir eu accès aux archives et surtout avec Klarsfeld qui lui a donné beaucoup plus de précisions sur la famille Bruder, qu'il écrira un autre récit, d'abord biographique sur Dora Bruder. Et rétrospectivement, là, nous avons avec Voyage de noces tout ce qu'il a pu élucubrer, imaginer à partir juste de l'entrefilet sur cette disparition de cette jeune fille de 16 ans.
Oui, c'est un des aspects, si je peux me permettre, qui est caractéristique des recherches, entre guillemets, de Modiano, c'est qu'il part sur des indices très faibles.
On va en parler de cette
donc,
enquête.
La faiblesse on des indices, parler. Oui.
Oui, oui.
C'est bon,
oui,
la
véritable part enquêteur.
La part de mystère.
Oui. Alors, d'abord, voyons, messieurs, est-ce que vous avez aimé ce livre ?
Alors, ce livre, moi, j'ai eu des difficultés
à y entrer
au cours de la première lecture. Et au cours de la première lecture, j'aurais tendance à dire que j'étais complètement perdu. J'essayais de me raccrocher à un certain nombre d'éléments. Et effectivement, il y a beaucoup de petits indices, de fragments. C'est décrit par touches, etc. Un peu comme la peinture. Et donc, on ne sait pas trop où il va. Et au cours de la seconde lecture, ça allait mieux.
Ça s'éclaircit.
Mais finalement, grosso modo, pour moi, c'est une enquête onirique qui n'aboutit pas, hein, quelque part.
Non, ça n'aboutit pas.
C'est vrai, c'est vrai. Pas. Plus, c'est vrai
le vide, ça aboutit au vide.
Exactement. Et j'ai trouvé dans le texte le résumé du roman.
Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord.
Oui. Et je pourrais
alors,
dire tout.
Oui,
dire,
ouais, voyons.
Alors, ce résumé, moi, je l'ai trouvé là. J'ai dit, il arrive qu'un soir, à cause du regard attentif de quelqu'un, on éprouve le besoin de lui transmettre non pas son expérience, mais tout simplement quelques-uns de ces détails disparates, reliés par un fil invisible qui menace de se rompre et que l'on appelle le cours d'une vie. Mmh. Et je trouve que cette phrase-là résume bien les choses parce qu'elle va englober la quête d'identité, l'introspection, et va une vraiment donner, je dirais, un autre aspect à ce roman qui, finalement, c'est pas une enquête comme les autres.
Oui, effectivement. Philippe Alors, Marat, vous je êtes comme peu, Philippe Gibert vous...
Je vais faire un peu un contrepoint à ce que dit Philippe. Moi, je vais commencer par vous donner quelques indications sur ma lecture. C'est mon premier Modiano. Je n'avais pas d'a priori et aucune indication biographique sur l'auteur. Et en fait, les procédés littéraires qui t'ont gêné, Philippe, je pense que pour moi, c'est ce qui avait fait le sel de ces lectures. Alors, je l'ai lu vite, je l'ai lu d'une traite, mm-hmm. une fois, d'une traite. Et en fait, cette lecture, on va dire en continu, m'a permis de repérer, je me suis laissé embarquer, si tu veux, par ces, par tous ces, ces points et ces procédés.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de procédés, finalement.
Ces ruptures de temps, notamment, ces ruptures, toutes ces petites choses qu'il faut qu'on ait perdu d'un paragraphe à l'autre. Le risque, effectivement, c'est de dire « Ah tiens, là, il y a une petite pause, je ferme le bouquin, je le reprendrai demain. » Et là, si tu reprends le paragraphe d'après, tu es perdu.
C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, finalement, c'est qu'il y a un véritable travail du lecteur.
Complètement. Ah ouais. Oui, tout à fait. Tout ouais. à fait.
Et ça, c'est intéressant.
Il faut rester très vigilant ouais. si on veut ne pas se faire perdre en se disant « Mais attends, de quoi il parle là ?» on était porte dorée et tout d'un coup, on se retrouve à Jean Lépin.
Oui, il y a des ellipses, effectivement. Il y a des ellipses dans le temps même.
Il y a des connexions. Il y a des connexions. Connexions temporelles et des connexions dans l'espace qui s'entrecroisent, qui se renvoient les unes les autres et on passe. Il y a eu des moments où je me suis dit mais on dirait
j'ai loupé
mais on dirait presque un de la science-fiction avec
un changement de
portail spatio-temporel là hop tout les personnages tout d'un coup se retrouvent ailleurs et à un autre moment ou bien au même endroit mais à un autre moment
et il y a des manques en fait. Finalement, il y a des manques.
Alors, il y a énormément.
Oui.
Il y a tout le temps du manque.
Oui, il y a tout le temps des manques, à nous de les combler.
Tout est une énigme. L'enfance est une énigme. La vie des parents pendant l'occupation est une énigme qu'il est impossible de reconstituer de manière réaliste. Il n'y a pas de réalisme. Oui. Je me permets de dire sur l'enfance, par exemple, l'enfance est énigmatique. Citation. C'est beaucoup plus tard que mon enfance m'a paru énigmatique. J'ai essayé d'en savoir plus sur les personnes auxquelles j'étais confié. Je n'ai pas réussi à percer ce mystère. La tentative de le percer m'a donné envie d'écrire. Et autre aspect, venant de Modiano lui-même, l'entreprise autobiographique m'a toujours paru un leurre, sauf si elle a une dimension poétique, comme vient de le dire Philippe.
Oui, onirique.
Tous ces passages poétiques, ce rythme qui est très déstabilisant en première lecture, si on n'a pas l'habitude
Et puis c'est vrai que ce passage...
d'une écriture de ce genre, et ces surimpressions temporelles et spatiales qui font que
ça, c'est intéressant, c'est passer d'un monde passé à une réalité bien présente. Hein,
Le présent et le passé se confondent.
Oui, voilà. Absolument.
Alors, tu parlais dans le procédé, alors ça demande effectivement un certain, en tant que lecteur, un certain lâcher-prise, parce qu'effectivement, tu peux soit être déstabilisé, soit dire, OK, je me laisse embarquer, et on voit ce que ça donne. Et effectivement,
il n'y a pas de linéarité.
Au bout d'un moment, ça fonctionne parce qu'on est tenu en haleine. Parce qu'on est tenu réveillé par ces
Alors,
ces,
est-ce
ces,
qu'on
ces
a envie... Oui, alors, on lâche prise, mais est-ce qu'on a envie de reconstituer une histoire un peu plus...
De toute façon, l'histoire, on peut la reconstituer. Oui. Moi, j'ai noté que dans cette démarche que vous décrivez, qui est en fait progressive et régressive, la stratification du temps, néanmoins, comme c'est un travail de la mémoire et sur la mémoire, la stratification du temps, on peut très bien, nous, en tant que lecteurs, se la reconstituer, même si elle n'est pas chronologique. Hein. On pourrait reprendre des passages, mais bon, ça serait trop long. Mais il y a quand même un début et une fin à cette histoire. Mais elle est encore en filigrane, et c'est nous, le lecteur, qui allons la reconstituer au fur et à mesure de la lecture. Absolument. Et c'est ça qui nous tient en haleine et qui nous embarque.
Par exemple, si on veut reconstituer rapidement le début à Milan, un événement a eu lieu à Milan. J'y étais il y a 18 ans.
Oui, c'est ça.
Ça commence comme tout de suite. Un événement a eu lieu à Milan, 2 jours avant mon arrivée.
Et oui, c'est
le 15 août.
À vrai dire, peut le dire aux auditeurs, il faut au départ s'accrocher, parce qu'on dit que ce n'est pas gagné.
Donc, il y a 18 ans, j'y étais.
Ouais, c'est ça.
Je viens d'y revenir la semaine dernière. été tenté de faire l'itinéraire que j'avais fait il y a 18 ans.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas certain que cette histoire est une fin et qu'on puisse bien la reconstituer.
Il n'y aura jamais de fin.
Il n'y aura jamais de fin. Il y a des trous, il y a des non-dits, il y a des fausses pistes. Et de toute façon, dans la manière dont le roman se termine, on voit bien que, notamment dans le dernier paragraphe, que je relirai à l'occasion bien volontiers, c'est sans fin.
Sans fin,
c'est
oui.
comme ça.
Donc, je suis encore à Milan. Alors que je devrais prendre un vol pour Rio, puisque je travaille comme documentariste. Et en fait, je cherche à comprendre la disparition de cette femme, cet accident dramatique qui est son suicide.
Alors après, on revient à lui. Et moi,
j'ai compris que la partie de ce mystère, ce n'est pas à Milan que je vais le trouver. Éclaircir ce mystère, ce n'est pas à Milan, c'est à Paris. Donc je reviens à Paris et à Paris, j'efface mes traces.
Les auditeurs vont être perdus.
Le paradoxe de la démarche, le paradoxe de la démarche qui consiste à faire une enquête entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'une enquête, il s'agit d'une évocation. Je reviens au point de départ pour retrouver le fil perdu. De
Absolument.
Cette personne, je reviens au point de départ et je m'installe à l'hôtel Porte Dorée et là, je poursuis mes recherches.
Ce que tu dis est intéressant parce que tu reviens sur le tout début du roman où il y a cette déconnexion entre deux à 18 ans d'écart dans un même lieu. Philippe, tu parlais tout à l'heure de déstabilisation. On parlait de déstabilisation à l'appréhension dès les premières pages du récit. Et en fait, il y a comme un parallèle. Il y a comme un parallèle avec cette déstabilisation que cause le voyage, qui évoque des souvenirs de voyages antérieurs et qui en même temps, je veux dire, l'aéroport, la gare, c'est pas un lieu, quoi. C'est pas un lieu où l'on vit. Mmh. Et en même temps, c'est le lieu où se produit cette connexion. Et donc, il y a une espèce en filigrane. Et dès l'introduction, il y a cette notion du voyage qui n'est pas un voyage.
C'est un explorateur.
Alors là, vous venez de parler, de sa quête, de cette enquête, de cette recherche. On peut parler de lui aussi au départ. Enfin, pas au départ, puisqu'en effet, d'emblée, il nous parle de Ingrid, celle qu'on saura.
Pour l'instant, on ne l'appelle pas.
On ne le saura qu'assez tard, d'ailleurs. Mais justement, moi, j'étais un peu interloquée dans un premier temps en lectrice lambda. Je me suis dit, bon, c'est un explorateur, un homme qui voyage. Et donc, a priori, il a un métier qui lui laisse une très grande liberté. Et il a besoin d'une plus grande liberté encore. Alors, comment vous l'avez interprété, cela ?
Moi, je pense que c'est un personnage qui est rentré dans une sorte d'obsession. Une obsession de lui-même et une obsession qui passe à travers un certain nombre de personnages sur lesquels, finalement, il se repose et il essaye de faire croiser un petit peu sa vie avec la vie de ces gens-là. Et donc, c'est pour ça, c'est le côté obsessionnel. Et finalement, qu'on soit en voyage, qu'on soit dans une gare, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans un hôtel, ben de toute façon, il y pense tout le temps et il fait toujours des rapprochements. Et ce sont ces genres de rapprochements qui... le lecteur, il y va, il suit. Et puis, allez, un coup, je vais là, j'amène le lecteur. Un coup, je vais à un autre endroit. Et c'est ça, effectivement, qui est aussi une qualité du roman, parce qu'on se laisse embarquer et puis on se laisse atterrir, pousser vers le mur d'une fausse piste.
Oui. Je crois que ça va un petit peu plus loin. C'est une sorte de porosité entre le narrateur et les personnages. Il est collé à son personnage, il a de l'obsession, comme tu dis, et une part du mystère de ces personnages est incompréhensible, est inaccessible. Et de même, pour lui-même, lui devient un personnage aussi inaccessible.
Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant qu'il ait cette envie de disparaître, on peut le rapprocher de cette disparition constante du personnage féminin? Il y a quand même
de Dora Bruder. Non, mais alors, justement, quand je rebondis sur ce qu'a dit Philippe concernant « il n'y a pas de fin », en fait, la fin triste et terrible, c'est que Modiano, intrigué par cet entrefilet en 89, parce qu'il faut quand même revenir à la gestation de l'ouvrage, il s'embarque, parce que c'est sa façon à lui de travailler par enquête, il fait ça, il prend toujours, c'est un schéma modianesque qui est classique, il est en général il rencontre accidentellement une personne qui le renvoie à une forme de, d'identité qui est la sienne, hein, tu disais. Mmh. Et la plupart de ses romans, c'est ça, c'est le réel qui est rattrapé par la fiction. C'est pour ça qu'on parle de fictionnel et de factuel. Et cet entrefilet va l'amener obsessionnellement à une enquête vraiment sur Dora Bruder. Et malheureusement, Dora Bruder, il y a d'ailleurs une... avec Hidalgo, après son prix Nobel, il y aura une inauguration d'une promenade Dora Bruder à Paris. Et Modiano vient, il prend la parole et donc il est rattrapé par, le, par l'histoire avec un grand H. Mais la fin de Dora Bruder, c'est la fin de toutes ces jeunes filles anonymes qui, comme Ingrid à laquelle il imagine une vie, ont, n'ont pas pu échapper malheureusement à Auschwitz et à la Shoah. Oui, donc la fin, elle est en filigrane dans le récit
d'ailleurs
aussi.
D'ailleurs, Ingrid, moi j'ai pensé tout de suite à Primo Levi, parce que ce suicide de ceux qui restent, cette impossibilité à vivre vraiment, ça, ça, m'a, fait, ça m'a évoqué Primo Levi. Oui,
oui. Oui, c'est vrai. Très juste, d'ailleurs, il a fait lui-même la proximité avec, avec Primo Levi.
Dans le livre.
Mais le rapport qu'il entretient avec les personnages, non, il le fait dans les entretiens.
Ah oui, d'accord, oui, oui.
Le rapport qu'il entretient avec les personnages, cette porosité, de, à la fois proximité et distance, mais ça, c'est son jeu d'écriture. Oui. C'est la définition même de son jeu d'écriture. Je m'approche, je m'éloigne. Et par rapport à lui-même, c'est pareil. Je disparais, je me fais complètement détaché de tout. J'aurai une résurrection un jour.
Oui, oui.
Un jour,
oui. Je vais revenir. Oui, mais alors, après chaque départ,
le mot résurrection,
l'histoire recommence, j'ai l'impression.
Alors, oui, oui, c'est un éternel recommencement, oui. Parce qu'il s'agit de la, je dirais, de la fragilité des êtres. Et dans ce qu'il décrit, c'est la fragilité d'Ingrid, de sa situation, mais c'est surtout aussi sa fragilité. Mmh. Et il mène cette fragilité en parlant à un moment donné du fardeau de la vie. Mmh. Hein, mmh. En disant, il y a un extrait, moi, qui m'a beaucoup plu sur le fardeau de la vie. Je me souviens qu'elle s'était tue à ce moment-là et que son regard prenait une drôle d'expression, comme si elle voulait me transmettre un fardeau qui lui avait pesé depuis longtemps, ou qu'elle devinait que moi aussi, plus tard, je partirai à sa recherche. Et là, c'est vraiment le sans fin. C'est la boucle.
Ouais. C'est la boucle.
Ah, mm-hmm. Tout à fait.
Oui. D'accord.
Tu avais évoqué les différents personnages, les procédés d'écriture et les procédés d'enquête. Mais en fait, ce qui est intéressant à découvrir, que j'ai découvert en fait au fil du roman, c'est qu'à un moment, tu t'aperçois que il y a plusieurs niveaux, bon, en première lecture, tu vois.
Pardon, Philippe, une seconde. On n'a pas pensé à dire qu'il écrit à la première personne. Hein.
Oui, alors, il y a un narrateur, oui, il y a un narrateur qui est clairement posé, voilà. Qui est Jean B. Voilà. Mais, Jean B. Et on, assez rapidement, on se dit, mais de qui on parle? Est-ce que le narrateur, est-ce que c'est ce narrateur qui fait cette enquête? Est-ce que c'est Modiano qui fait cette enquête? Quelle est la distance entre le narrateur et Jean B? Quelle est la distance entre Jean B et les personnages? Le narrateur en question a eu sa vie mêlée aux personnages sur lesquels il enquête. Donc, dans quelle mesure Modiano s'est intégré dans cette vie-là, ou quelle est en fait la distance de Modiano avec la réalité dans ce qu'il écrit. On peut se poser au fil de de la lecture. Il y a ces questions, ces différentes strates de personnages et de récits. Qui s'entrecroisent, on voit la distance se dilater ou se rétrécir dans ces différentes strates.
C'est plutôt qu'ils se surimpriment les uns sur les autres, plutôt qu'entrecroisés.
Oui,
c'est surimprimé.
Et on arrive au calque parfait quand on lit une biographie de Modiano après avoir lu le roman.
Oui, on en parlera. Hein. On en parlera.
Alors ça, c'est un débat.
Mais parce que là, on ne va pas être d'accord avec Daniel Marc.
La biographie n'explique pas tout.
Vous parliez à l'heure d'identité, mais sa quête d'identité, ça m'a fait rire, une anecdote que vous avez lue peut-être. Il dit, Patrick Modiano dit qu'il est né, je suis Patrick Modiano, je suis né en 1947 à Paris.
5.
Eh bien,
5,
en 45. 47, tout est faux. Il ne s'appelle pas Patrick Modiano, oui, il s'appelle Jean Modiano. Non, ça, il n'est pas né à Paris, il est né à Boulogne-Billancourt. Et il n'est pas né en 47, mais en 45. Oui, alors ça, c'est drôle.
Non, mais ça, c'est un jeu.
C'est quand même son personnage aussi.
C'est un jeu, complètement. Complètement.
Ouais, ouais. Oui, les fausses pistes même.
Oui, oui, oui. Alors ce problème d'identité aussi.
C'est toujours des cas d'identité. Hein.
Oui, alors. Après, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la mémoire, de ce travail de mémoire,
oui,
quand même.
Alors, moi, on parle de Proust, le Proust contemporain. Oui, je voudrais citer une phrase de Proust que j'avais même sur un t-shirt arboré pendant de nombreuses années, qui colle complètement à Modiano. Proust a écrit
«
Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre, ce soit aussi la rêver, mais moins mystérieusement et moins clairement à la fois. » D'un rêve obscur et lourd, semblable au rêve épars, dans la faible conscience des bêtes qui ruminent. C'est dans les plaisirs et les jours. Mmh. Et donc, c'est exactement, moi j'ai relevé un certain nombre de phrases dans ce roman et dans d'autres, où on est tout le temps à la lisière entre est-ce que je suis vivant, est-ce que je rêve, est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je rêve, et la force du rêve. Et ce qui était intéressant...
Et on les retrouve toujours dans la mémoire, vivant.
Dans l'émission que Bunel a consacrée à Modiano pour son dernier livre, il avait invité un spécialiste du cerveau.
Ah,
alors, c'était vraiment passionnant parce que ce spécialiste du cerveau, on lui a posé des questions sur le travail de la mémoire par rapport à Modiano. Et il s'appelle Stanislas Dehaene. Hein, il a écrit un livre qui s'appelle « Face à face avec son cerveau ». Il a parlé de l'hippocampe, que je trouve que c'est très, très beau, qui recrée une trajectoire mémoriale la nuit. Donc, le sommeil est très important. Donc, les insomniaques, on en connaît,
on
ont beaucoup de mal.
Oui, on en parlera une autre fois. Alors, on pourra continuer à parler de la mémoire, mais pour l'heure, on fait une pause musicale. Mais avant toute chose, on va demander à Thibaut Dautuil, le directeur de notre radio. J'ai l'impression qu'il a quelque chose à dire. Il est de l'autre côté du, non pas du miroir, mais
presque.
Presque.
Presque de l'autre côté du miroir. Non, c'est pas, ce serait une autre émission de littérature s'il était de l'autre côté du miroir. Oui. Non, je suis ébahi par l'ambiance de votre plateau, Monique.
Ah, ils sont dynamiques,
Oui, une ambiance émission de minuit. On a des lumières indirectes, c'est la nuit dehors, les 5 micros sont ouverts. Il y a des débats incroyables, je trouve qu'il y a une qualité stupéfiante. Vous animez quelque chose de magnifique. Et je me dis, mais quelle chance nous avons. Quelle chance nous avons de vous entendre ce soir. Et là, je m'adresse cette fois-ci aux auditeurs. Si vous êtes là, si vous écoutez cette émission, vous vous dites vous aussi, waouh, quelle magnifique émission littéraire. Quelle chance j'ai en écoutant Radio Présence d'écouter cette émission. Et donc, vous vous dites, ben oui, effectivement, c'est forcément le moment d'appeler, d'appeler pour manifester la joie que vous avez d'écouter cette émission, pour montrer que vous êtes heureux que Monique Fauché puisse venir comme ça toutes les semaines pour animer cette émission. Aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Hein, elle a un plateau autour d'elle. Parfois, c'est un écrivain. Parfois, c'est une grande variété des formats de Monique. Donc, merci Monique pour cette magnifique émission. Et chers auditeurs, appelez pour manifester votre joie au 05 62 48 63 00. Pierre Stark et Marie-Pierre Pavlak sont encore là ce soir jusqu'à 8h pour discuter avec vous. Voilà, appelez maintenant. Merci.
Présence.
En direct. Le Radio Dôme.
Radio Dôme. Je suis toujours en partance. Je vis contre le cours de ma vie. Bateau dans le cœur, un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Partir, partir.
chercher fortune. Pour partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. Et les gens, l'argent serait du vent.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Honneur à Patrick Modiano, notre prix Nobel de littérature. On en avait eu un autre qui habitait dans la région, vous vous souvenez certainement, messieurs, dames, madame.
Oui.
Oui. Claude Simon.
Oui, bien sûr.
Et oui, Simon. Et oui, Claude Simon. Oui. Un peu ardu celui-là, hein, pire encore, non?
C'est autre chose. Alors,
c'est
il
encore
pas
autre
dans
chose.
Les phrases courtes, il bon. Fait plutôt dans les phrases un peu longues.
Voilà.
Mais parfois, il est court aussi.
Voilà. Alors, dans, il est traduit aussi dans de nombreux.
Il est plus connu à l'étranger qu'en France.
Oui, peut-être, oui, sans doute même. Dans les universités, en tout cas. Merci à vous, merci Martine Imhoff, merci Daniel Marc, merci Philippe Nara, merci Philippe Gibert d'être là, de discuter. C'est un plaisir de discuter de littérature avec vous et de parler de ce livre qui est assez étonnant. Et alors, j'encourage les auditeurs à le lire parce que c'est une bonne entrée en matière dans les livres, je pense, de Patrick Modiano. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres plus...
Oui.
Non, plus révélateur encore de son talent.
Un pédigré aussi. C'est,
oui, pédigré.
C'est
vraiment... pédigré
le dernier est Chevreuse, que nous n'avons pas encore lu. Mais, oui.
La place de l'étoile.
Moi, j'avais lu...
La place de l'étoile, c'est là.
Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y avait
Plus des boutiques obscures.
Non, ceinture, boulevard de ceinture. J'avais trouvé...
Tu as la liste, là, si tu veux retrouver. Parce
oui, j'avais...
C'est son 30e livre, Chevreuse. Hein.
Ah oui.
Donc,
oui. Il y en a un paquet. Et alors, il ne s'essouffle pas.
Alors, justement, là-dessus, il a été interviewé, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il dit, on lui demande si c'est le dernier, lui-même, il dit peut-être... il dit, est-ce que vous avez fait le tour? Oui, j'ai fait le tour, et chaque fois, je crois que c'est le dernier. Mais c'est une insatisfaction perpétuelle. Et
C'est un éternel insatisfait.
Je suis frappée par les écrivains qui disent qu'ils vont arrêter d'écrire, parce que moi, je crois que c'est une illusion, ben
non,
dit-il.
Sûr,
oui. Non, je pense à ça parce que Clint Eastwood a fait encore un film il n'y a pas, longtemps, et il paraît quand même qu'il est moins bon que les films habituels. Bon, on ne va pas faire une chronique cinématographique, non, puis, c'est presque dommage. Hein.
Je pense que Modiano n'est pas dans le même registre, que
Clint. Bon, à chacun ses spécialités. Hein,
que oui, Clint Eastwood.
Non, c'est pas le même discours. Hein.
Non, pas tout. Non, bon. Modiano, c'est permanent, s'il ne s'arrêtera jamais.
Oui, oui.
C'est toujours...
On parlait de la
même
mémoire.
Même thème, même sujet.
Ce souvenir, absolument. Hors antenne, j'ai évoqué un livre écrit par une Toulousaine, Catherine Graffogel, qui a écrit un livre intitulé « Luisia ». Et je vous ai dit, ça m'a particulièrement touchée parce qu'il y a des réminiscences. Là, quand j'ai lu le livre de Modiano, j'ai trouvé qu'il y avait un rapport, à savoir que Luisia était une jeune femme de 22 ans qui est partie, d'origine polonaise en fait, qui est partie d'un petit village au pied des Pyrénées, qui est partie dans une rafle et qui a laissé son bébé de 2 ans à des voisins. Et en fait, elle a eu le temps de passer, on ne sait pas comment, une petite lettre adressée à son fils, qu'il a eu 40 ans plus tard, mais ça c'est une longue histoire, une lettre particulièrement émouvante. Et donc, cette personne, Catherine Graffogel, c'est comme Patrick Modiano, c'est en lisant dans Le Monde un article, un entrefilet, de celui qui allait devenir d'ailleurs son mari, pour la petite histoire. Et vraiment, et comme vous disiez, Daniel Marc, hors antenne, c'est vrai que cette guerre dans cette guerre, il y a eu énormément d'histoires individuelles terribles, d'histoires collectives, mais d'histoires individuelles, bien sûr. Alors, la mémoire, qu'est-ce qu'on peut en dire encore de la ville ? Extraordinaire, la ville, non ?
Ben, la représentation de la ville, c'est sous l'invocation de Baudelaire, les plis sinueux de la grande ville qu'on peut mettre en lien avec les plis sinueux de la mémoire. Modiano, qui est un maniaque des petits documents celui qu'il a trouvé, à un moment, il explore les feuillets des annuaires. Mais des annuaires antérieurs, évidemment. Annuaires papier.
Et... Le bottin ?
Oui, le bottin.
Il y a des passages, justement, où il donne des indications temporelles assez ténues et volontairement vagues. Où il dit en fait c'est un le narrateur est tombé sur un bottin datant d'il y a 8 ans, c'est-à-dire de l'époque où les numéros n'avaient encore que 7 chiffres.
Auteuil 38,
c'est-à-dire ce qui donne une datation mais assez approximative à la fois du temps de la narration et de ce bottin en question.
Oui, en question, oui.
On a une indication assez floue, mais ça montre bien en fait que ces mécanismes de recherche, d'enquête dans la mémoire font face au flou et à la nécessité de
se raccrocher à des détails.
D'interpréter.
Évidemment.
C'est-à-dire de compléter.
C'est pour ça que là, c'est vraiment complètement l'imaginaire.
Il y a des moments où, effectivement, j'avais repéré un passage où le narrateur dit...
On peut le lire,
j'ai imaginé que, par exemple, il donne la description d'une scène qui s'est passé entre son personnage Ingrid et son mari Rigaud, et il enchaîne. J'ai imaginé que chez lui, rue de Tilsit, il avait transporté boulevard Soult les skis, les chaussures, etc., etc. Donc il a en fait prolongé à partir d'un détail matériel qui est une paire de skis et une coupure de presse qu'il retrouve dans une chambre.
Un magazine de Megève.
Il reconstitue l'histoire de ce détail. Le narrateur l'avoue lui-même dans la forme, j'ai imaginé que. Bien sûr. En fait, il a aucun élément.
Oui, côté onirique.
Donc, et ce n'est donc plus une reconstitution.
Non,
il l'avoue.
Ça n'est plus. Et ça n'est plus le formalisme d'une enquête, d'une enquête
rigoureuse. Pas un historien du tout.
Tout à fait. Tout.
Non, mais alors en revanche, on dit que c'est un architecte parce qu'il a une façon de décrire la ville assez extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Martine.
Oui, enfin les rues, les lieux. Moi, j'étais moins sensible à l'architecture que, on le dit aussi pour la langue française et les noms de lieux. Bon, on l'a
mais
beaucoup
non, mais ces villes qu'il décrit, elles sont à la fois familières et étranges. Je trouve que ça donne un sentiment de solitude.
Bien sûr, bien sûr. La ville est un lieu d'apprentissage. Alors, le lieu d'apprentissage pour l'enfant, parce que l'enfant se promène beaucoup dans la ville, de quartier en quartier, mais ça c'est lui qui le raconte hors texte. Mais la ville qu'il nous montre est une ville dans laquelle on se perd complètement. On passe le long de l'école
et on
militaire,
se retrouve.
La rencontre, la rencontre le long de l'école militaire, nous connaissons parfaitement l'avenue
de
Levin.
Oui, alors là,
le long de l'école militaire.
Il est précis, là pour le coup.
Oui, le long du mur de l'école militaire. Oui. Il ne dit pas le nom de l'avenue d'ailleurs.
Oui, mais...
Il rencontre Ingrid.
Il revoit Ingrid trois ans après.
Il revoit trois ans après le séjour à Jean-Lépin. Il la rencontre, elle marche solitaire dans cette avenue qui est désertique. Évidemment,
nous la connaissons bien.
Aujourd'hui, on a du mal à imaginer des avenues désertiques, mais...
C'est le Paris de l'occupation. Les confinements nous les ont fait retrouver.
C'est le Paris de l'occupation, on entend les sabots des chevaux. Et donc... Il va à son niveau et il commence à lui parler, mais d'une manière un peu... chacun ne sait pas si l'autre... Mais bon, la ville est un lieu de rencontre.
La topographie
est un lieu d'apprentissage et de rencontre.
Oui, parce que pour revenir à la ville, alors effectivement, il donne des détails, mais je trouve des détails très précis sur la ville, les rues.
Oui.
Mais moi, je trouve pas ça précis.
Il donne les noms.
Pas précis du tout. Hein. À part le musée des colonies, à Doménil, il est en face. Tout le reste.
Moi, je trouve qu'il y a une certaine précision.
Enfin, il passe à Dornano. Par rapport... Tu sais où c'est le boulevard Dornano?
Je ne suis pas parisienne.
Justement.
Mais il ne cite pas des lieux imaginaires. Il cite des lieux précis.
Oui, mais quand tu
es à ce niveau-là que je pense que c'est quelque chose de précis. Et ces choses précises. Précisément.
Non, ce sont des noms réels.
Ce n'est pas précis,
c'est réel. Les noms sont réels.
Laissons-le terminer.
Quand tu nommes des choses avec leur nom, tu apportes une précision. On peut jouer sur les mots. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en donnant des noms, ils contribuent à nous perdre un petit peu. Ça amplifie ce grand labyrinthe dans lequel il veut nous entraîner.
Ouais. La ville est un mystère aussi.
Et la ville, moi, ce que j'en retiens, c'est que pour lui, la ville est un terrain de fuite aussi.
Oui.
La ville lui permet de fuir. Et il y a cette espèce de répétition, c'est qu'il avait déjà fui. Dans ces endroits-là, des années avant. C'est ça, cette notion de répétition.
Alors, peut-être qu'on pourra parler de l'identification de l'auteur, d'ailleurs, au personnage d'Ingrid, parce qu'elle aussi, elle est en fuite. Mais avant...
Ils sont orphelins, tous les deux.
Oui, non, et puis il fuit quelque chose, de toute façon.
C'est ce qu'elle fuit.
Mais je crois que c'est pour ça qu'il s'attache à reconstituer la vie d'Ingrid, ce qu'elle a pu penser, son comportement, parce que il s'en trouve très très proche et il dit quelque part on porte le même fardeau
alors moi je me suis posé la question de savoir alors je sens que quelqu'un va réagir parce que je trouve qu'il y a tellement de références autobiographiques dans cet ouvrage, je me dis que en fait il est à la recherche d'une femme qui se dérobe tout le temps Ingrid, finalement, on la voit par ellipse, justement, enfin, de temps en temps.
Oui, ils passent un long moment avec elle, ils dînent ensemble.
Oui, après, un long,
après,
attends, tu
après
présentes.
Après l'école militaire, oui. Ils dînent ensemble.
Oui, oui. Mais elle disparaît, elle finit par disparaître. Elle disparaît combien de fois dans l'ouvrage? Au moins trois reprises.
Bien sûr. Et ce ne sont que des rencontres éphémères, quand même.
Et en fait, moi, je me suis dit, mais finalement, sa mère partait aussi. Et très régulièrement, elle n'était jamais à ses côtés.
Oui, enfin... Moi, je pense que, pour citer aussi Modiano, qui a beaucoup expliqué pourquoi il y avait ces notions de disparition et pourquoi Dora Bruder l'a tellement habité pendant 6 ans.
Ingrid,
puisque,
il dit
qu'il s'identifie à travers la disparition des êtres pendant la guerre, même si lui, il est né après la guerre. Et bon, on pense aussi à Georges Perec, on pense à tous ces gens, même à Boltanski,
c'est le syndrome du survivant aussi.
Oui, c'est ça, c'est le symbole du survivant. Oui. Il dit qu'il a développé une sensibilité particulière pour les disparus de la Shoah, même si lui-même, il est né après la guerre.
Oui.
Et que quand il regardait les vieux films qui sortait sur les écrans parisiens en été 41, le moindre film de cette époque lui donnait l'impression qu'il avait vécu à cette époque. Il a témoigné là-dessus. Il a dit plusieurs fois que...
Avec l'époque et les personnages de l'époque.
Et que c'était insupportable pour lui, il l'exprime, parce qu'il pense à ceux qui ont vu le film et qui après sont morts. Et c'est pour ça que l'enquête sur Dora Bruder est tellement importante pour lui et pourquoi il a insisté aussi à Paris pour qu'il y ait une esplanade, enfin une promenade pour cette jeune fille, parce qu'elle symbolise... Oui, tous ces disparus anonymes, parce que dans la liste d'archives que Klaasfeld lui a soumis, il a vu toute la liste des jeunes filles de son âge qui n'ont pas eu la chance de revenir, comme Simone Veil ou un certain nombre d'autres personnes qui après nous ont marqué aussi. Lui, il est né après la guerre, mais il s'identifie à travers
en permanence
à cette époque.
Et c'est son thème le plus fréquent.
On peut dire quand même qu'il y a souvent
le lieu et l'occupation allemande.
Il y a une forme quand même de mélancolie grave à la limite. Toujours, je me dis qu'en fait, son univers est gris. Pour moi, Modiano, c'est gris. Certain. Et je me dis qu'en effet, il y a l'idée de mort. Il porte sur lui comme beaucoup les Juifs.
On peut lire les dernières lignes, si tu veux. Oui. Les cinq dernières lignes du roman, c'est quand même pas très, très gai. Peu importe les circonstances et le décor, ce sentiment de vide et de remords vous submerge un jour. Puis, comme une marée, il se retire et disparaît. Mais il finit par revenir en force. Et elle ne pouvait pas s'en débarrasser, moi non plus.
Oui.
Voilà, moi, je voudrais lire les dernières lignes de Dora Bruder.
Peut-être qu'on terminera par les dernières.
Oui. Je voudrais faire une remarque.
On n'a pas fini encore. Non, il nous reste quelques minutes.
Par rapport
encore
à ce que vient de lire Philippe, qui est le vide et le remords. Donc, toute la démarche depuis le début où on a une abondance de données temporelles et à Milan, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Et on termine tout ça en passant par Saint-Raphaël, etc., la Côte d'Azur, le retour à Paris, les lieux de Paris, etc. Et on aboutit à quoi? On aboutit au vide.
Oui. Le sentiment de vide.
C'est ça.
C'est vraiment du vide.
Alors, est-ce que c'est ça qui le pousse à fuir, finalement?
Quel est le meilleur moyen de lutter contre le vide et de remplir le vide? Eh bien, la réponse, c'est l'écriture. C'est avec ça qu'il vit. Lui, il vit avec l'écriture.
Lui, c'est-à-dire
bien lui, l'auteur, bien
mais
sûr.
Mais même le narrateur. Le narrateur a pris des notes sur Ingrid pour faire un roman.
Le narrateur et l'auteur, évidemment,
il retrouve sa petite enveloppe, là, avec les notes qu'il avait prises.
Mais il a sans arrêt son dossier avec lui.
Oui, c'est un roman qui apprend le vide, finalement.
Mais comment lutter contre le vide?
L'écriture, mon pote. C'est le fond. Moi, je trouve que c'est le fond du problème, parce que quelque part, dans cette fuite, dans cette quête sans fin, ça veut dire c'est il y a le vide.
Et le sentiment de solitude.
D'être perdu, de rechercher la protection, et quand il croit l'avoir, de l'apprécier, etc.
Alors là, vous ne m'enlèverez pas l'idée quand même qu'il est très marqué par sa jeunesse. Pour moi, c'est ça.
Oui.
Daniel dit oui à la rigueur.
Bien sûr.
Je ne veux pas faire de la psychanalyse sauvage.
Ça n'explique pas son système d'écriture.
Philippe Narra, qu'est-ce que vous en pensez?
sur le. J'avais pas la référence à la biographie de Modiano quand j'ai lu le bouquin. Donc
oui, très bien.
je peux pas, si tu veux, juger de ce
de cette imprégnation
de l'importance de la
prégnance en fait des éléments biographiques là-dedans, même si de par l'entrecroisement entre les niveaux de personnages qui sont décrits, l'histoire de Jean Ingrid,
oui, parce que Rigaud il n'en parle pas
et,
hein, en fait
Jean Lépin,
lui il va chez sa mère.
C'est un personnage vraiment secondaire.
C'est un personnage qui est maintenu en retrait, et l'artifice pour le maintenir en retrait, je ne sais pas si vous l'avez noté.
Ah, tu vas nous le dire.
Quel suspense là. Dans le micro, s'il vous plaît.
Il ne l'appelle jamais, on ne connaît pas son prénom.
Non, absolument.
Il s'appelle Rigaud. Oui, c'est vrai.
Ben oui.
C'est
vrai. Et lui, il s'appelle Jean B.
Oui,
voilà. Il n'a pas de nom, mais il a un prénom.
Il y a un moment, une identification assez claire entre le narrateur Jean B. et Rigaud.
Et Rigaud.
Oui. Il revient quand même habiter l'appartement.
La maison de l'américaine.
L'appartement que.
Que sa mère.
L'appartement de Rigaud. Que Rigaud a laissé inoccupé depuis 30 ans.
Oui, avec Ingrid. Ils ont vécu là.
Et en fait,
c'est là qu'il retrouve l'esprit.
Mais
dans
il
le placard,
part toujours à la recherche d'Ingrid et pas de Rigaud. Il faudrait remarquer qu'on sait peut-être.
J'ai pas dit qu'il partait à la recherche de Rigaud. J'ai dit qu'il s'identifiait à Rigaud. Peut-être que c'est une façon de se rapprocher du personnage.
Oui, peut-être. C'est une hypothèse, c'est vrai.
Oui.
Mais c'est aussi pour lui une façon d'aplatir la distance et de se mettre dans la peau de ses personnages, d'arriver à comprendre. Il y a quand même une description aussi de la du moment où il quitte, où Rigaud et Ingrid quitte l'appartement de la rue de Tilsit. Toute cette description.
Le quartier de l'Étoile.
Le quartier de l'Étoile, où toute cette description où, effectivement, Rigaud, qui est décrit comme un jeune fils de bonne famille, qui laisse tout parce que l'immeuble est. A été spolié.
On
se pose pas de questions d'ailleurs sur sa disparition, parce que visiblement, d'après le dit du propriétaire, on a l'impression qu'il reviendra plus.
Oui, il reviendra plus, dit le concierge.
Il a compris qu'il n'avait plus rien à faire.
Puisqu'il est
orphelin.
Ouais.
Et il rencontre Ingrid, qui est orpheline. Lorsqu'elle a quitté. Elle n'est pas retournée chez son père, boulevard d'Ornano.
Tout de suite.
C'est au nord de Paris, porte de Clignancourt. Alors qu'on était à l'ouest, en face du musée des colonies, et tout d'un coup, on est
sur le terrain. Ce qui est très précis.
Très précis.
Absolument.
Tu devrais essayer en vélo parce que ça ira beaucoup plus vite. Et donc, elle n'est pas retournée chez son père. Et c'est malheureusement, quand elle a téléphoné plusieurs jours après, son père avait disparu.
Mais
il y a des gens qui sont venus le chercher.
Par rapport au rapport complexe, par rapport aux parents défaillants, il n'y a pas besoin de lire sa biographie. Il le dit textuellement, de drôles de parents qui avaient toujours cherché un pensionnat, une maison de correction pour se débarrasser de moi.
Il y a des éléments de biographie, c'est évident à la lecture.
Et dans tous les livres de
Dans le livre de famille, beaucoup plus.
Alors bon, c'est vrai que les thèmes durs, c'est la guerre, la Shoah, les rafles, ça c'est la toile de fond finalement, qui s'installe peu à peu, on ne comprend pas trop au départ. Alors, est-ce que c'est un roman, une biographie? Il nous reste très peu de temps. Un récit?
C'est un roman. C'est Dora Bruder qui est une biographie. D'ailleurs,
roman.
On lui a contesté le titre de roman à Dora Bruder qu'il écrira 6 ans après. Non, là, on est dans le roman.
Dans l'imaginaire.
Il part d'un entrefilet, il imagine un personnage.
Et pourquoi a-t-il écrit vraiment la suite c'est pas une suite.
Il est obsédé par ce personnage.
Je pense qu'il explore une veine obsessionnelle.
Oui, ça devient obsessionnel.
C'est des modalités différentes d'un même sujet, en fait. Il y avait matière à un roman, et je pense qu'il était plus immédiat, peut-être plus facile de se soulagé, entre guillemets, de ce fardeau mémoriel, imaginaire,
en attendant mieux, parce qu'il continue son
enquête. En écrivant un roman, parce que le boulot d'enquête est plus exigeant et c'est plus étalé dans le temps. Donc là, en fait, il était sans doute plus facile de combler les manques, les lacunes
de
l'imaginaire.
C'est son système qui déclenche.
Et ensuite, reprendre dans Dora Brunner, comme tu l'indiquais, l'enquête.
Il dit, mais le roman achevé, j'en étais au même point, et tout cela pouvait finir que par un livre qui ne serait pas un roman. Avec Dora Brunner, j'ai d'abord biaisé en écrivant un roman, mais j'ai enfin abordé le problème de fond.
Tout à fait.
Dora Brunner, il ne peut pas s'empêcher, je ne l'ai pas lu en entier, des passages où il y a des données comme ferait un documentariste ou un historien, avec des cumuls de chiffres, de données sur l'occupation, sur... les rafles, etc. Mais il ne peut pas s'empêcher de dire « je » aussi, il ne peut pas s'empêcher de parler de lui.
C'est presque un journal intime à certains moments, non ? Non, Philippe, il n'a pas l'air d'accord.
Tu veux parler de Voyage de noces ou de Dora Brunner, je ne l'ai pas lu.
Non, mais Dora Brunner, c'est une enquête, vraiment une enquête.
C'est une enquête, oui. D'ailleurs, il l'a publié sous le nom de biographie. Après, il l'a publié sous le nom de roman. Il y a quand même 4 pages d'un article que je vous conseille d'une universitaire qui discute de ça et qui ne souscrit pas au fait que Dora Brunner serait un roman. Pour elle, c'est une biographie. Et d'ailleurs, j'aimerais lire les dernières phrases de Dora Brunner parce qu'elles sont en écho par rapport à ce que tu as lu.
Alors, vite, parce qu'il nous reste une minute.
J'ignorerai toujours à quoi elle passait ses journées, où elle se cachait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est là son secret, un pauvre et précieux secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire avec un grand H, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit n'auront pas pu lui voler.
Alors là, c'est pour elle. Mais en ce qui concerne Modiano, moi je dirais que les écrits littéraires sont souvent comme des transcriptions du monde intime. Et là, écoutez, moi, je retrouve tout à fait la manière d'une mémoire restituée, avec ce talent de finesse, de sensibilité qu'a Modiano. C'est ça, quand même.
On est d'accord.
Oui. Mais avec des petites échappatoires, des fuites, des procédés pour orchestrer ou pour masquer pas mal de choses. Il avance à pas masquer, surtout...
Comme nous ce soir. Chers auditeurs, nous sommes tous masqués et nous vous souhaitons une bonne soirée.
Avec Modiano.
Je rappelle qu'il s'agit de Patrick Modiano qui a écrit... Voyage de noces, Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Alors, vous le trouvez dans beaucoup de collections, mais vous le trouvez en livre de poche chez Folio. Et donc, nous vous encourageons à lire Modiano. Voilà, merci.